Thierry Ballas, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous cueille juste à la sortie de votre dernière production qui s'appelle Le Voyage Supersonique. Et alors, vous êtes le créateur aussi de la compagnie qui s'appelle Inouï. Et alors, on comprend pourquoi ça s'appelle Inouï, parce que véritablement, c'est de l'exploration sonore.
Oui, c'est ça. Moi, je viens du son à la base. Et puis, j'ai découvert les musiques électroacoustiques assez tardivement, finalement. Et j'ai découvert que toutes les bidouilles que je faisais dans mon coin en utilisant les techniques du son s'apparentaient à la musique électroacoustique. Et donc, j'ai décidé de créer des spectacles pour faire rentrer cette musique-là qui est assez peu connue, qui fait un peu peur. Et c'est vraiment mon idée, c'est ça. C'est de faire découvrir à un public le plus large possible qu'on peut prendre du plaisir à écouter une musique qui ne répond pas à tous les codes habituels de la musique.
Et alors, c'est un spectacle à partir de 8 ans, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enfants. C'est un spectacle qui est un peu magique, comme ça, on part en exploration sous l'eau. Et on arrive quasiment en dehors du système solaire, face à un trou noir. Et alors, les enfants, je pense qu'ils sont en immersion totale. Est-ce que vous avez des retours dans un premier temps de ce qui se passe pour eux?
Ah, je crois qu'ils sont ravis de faire le voyage. Ça les excite un peu. On a fait déjà plusieurs représentations scolaires et ça se passe très bien. Ils sont contents, ils sont curieux. Ce qui est assez drôle, c'est que les choses qui les étonnent, c'est des choses qui peuvent nous paraître, nous, assez simples. À un moment dans le spectacle, les enceintes parlent. Alors ça les fascine, ça. Alors que c'est juste un enregistrement. Il se passe bien d'autres choses dans le spectacle qui sont bien plus complexes à faire. Mais le simple fait que les enceintes parlent, ça les fascine.
Et alors, moi, j'ai trouvé que vous nous réconciliez finalement avec les nouvelles technologies. Bon, même s'il y a des instruments qui datent des années 70, mais enfin, c'est assez proche de nous finalement. Parce qu'il y a beaucoup de critiques concernant les nouvelles technologies. Je pense notamment aux réseaux sociaux, etc. Mais vous arrivez à créer une forme de magie par rapport à des instruments qui peuvent paraître comme ça assez froids de prime abord.
Ouais, alors, nouvelle technologie, ça se discute, hein, parce que sur ce spectacle-là, alors, à part la partie préenregistrée qui est faite sur ordinateur, on utilise effectivement des logiciels assez récents. Sur scène, moi, j'aime bien tout mélanger, en fait. Moi, je défends pas les nouvelles technologies. J'ai des envies de son, j'ai des idées de son, et je prends ce qui est bien pour le faire. Donc, ça veut dire que sur scène, on peut avoir un ordinateur, on peut avoir un synthétiseur des années 50, et on peut avoir une percussion traditionnelle. Voilà. Par contre, ce sur quoi je suis formel, c'est qu'on fait pas le son d'une percussion traditionnelle, ni avec un ordinateur, ni avec un synthé. Et inversement, on fait pas le son que peuvent produire certains ordinateurs avec une percussion traditionnelle. Donc tout ça a de l'intérêt. Simplement, il faut pas vouloir que l'un remplace l'autre, c'est tout.
Alors justement, vous avez mentionné tout ce que vous utilisez sur scène, mais vous utilisez aussi des objets pour faire les sons, des objets qui sont pas forcément faits à la base pour faire de la musique. Par exemple, pour faire des sons d'animaux, c'est vrai que pendant tout le spectacle, on se demande si c'est vraiment des sons d'animaux qu'on entend, que vous avez enregistrés, ou si c'est vous qui l'avez créé. Et ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant.
Ouais, bah alors, ceci dit, certainement qu'en réalisant ces sons imaginaires, ce sont tous des sons imaginaires, j'ai été influencé par des enregistrements que j'ai entendus, hein, des enregistrements de sons de baleines, qui sont de toute façon des transpositions. Hein. Les baleines, elles chantent effectivement, mais à des fréquences qui sont très très graves et que nous, on n'entend pas. Hein. Donc de toute façon, c'est transposé. Et oui, et c'est assez drôle, comme on arrive assez vite à faire des animaux imaginaires. Ça fait longtemps, moi, que je travaille là-dessus. Et dès qu'on transforme un petit peu des sons, vous prenez un son d'oiseau, vous le ralentissez, et tout à coup, vous avez l'impression d'entendre un singe dans un premier temps, et puis après un espèce de monstre indescriptible. Et c'est ce que j'aime bien, moi, dans la matière sonore. Ça les déstabilise au départ, parce qu'on est quand même dans une culture de l'image. Et une des réactions qu'ont les enfants, c'est pourquoi on voit pas les monstres marins? Et la question que je leur pose, c'est mais est-ce que vraiment tu ne les as pas vus? Et la réponse, en général, c'est « mais si, je les ai imaginés ». Et voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse dans la dimension sonore, c'est qu'elle laisse la place à l'imaginaire.
On a envie, en fait, dès le départ, de fermer les yeux et de se laisser envahir par les sons. Du coup, je me suis demandé si un spectacle comme celui-là, il pourrait pas être diffusé à la radio, par exemple.
Alors, je vous suis là-dessus. Moi, j'aime bien aussi les aspects visuels de ce spectacle-là. Mais c'est marrant parce qu'il y a un des enfants qu'on a accueilli hier qui a eu la même réflexion que vous, qui a dit « mais moi, j'aurais préféré rien voir ». Et bah voilà, on a le choix, on a le droit de fermer les yeux. Oui, on pourrait diffuser ça à la radio. Oui, je suis en train de réfléchir à une version disque de ce spectacle. Voilà.
Oui, parce que ça s'apparente, s'il se fait beaucoup maintenant, notamment dans des festivals de théâtre vivant, de ce qu'on appelle des siestes sonores. Mais là, ce qu'il y a en plus, effectivement, c'est l'aspect créatif, parce que sur scène, vous créez vraiment, même s'il y a des bandes enregistrées, votre propre composition musicale.
Oui, c'est très juste. C'est-à-dire que j'aime aussi, moi, la question du geste musical. Donc j'aime bien que les gens puissent quand même découvrir comment ces sons sont faits. C'est vrai que j'ai choisi aussi de pas avoir trop d'informatique sur scène, parce que le geste informatique, c'est quand même pas génial. Voilà, donc je préfère avoir des sources qu'on manipule. D'abord, je pense que c'est plus agréable pour les spectateurs, mais en tant que musicien, c'est beaucoup plus agréable. Hein. Manipuler une souris, ça permet pas de faire de la musique. Hein.
On imagine que chez vous, c'est un peu un atelier comme ça d'un créateur fou. Est-ce que c'est la totalité de ce que vous avez comme instruments qui sont sur scène, ou est-ce que c'est juste une infime partie de ce que vous avez chez vous ?
Alors, chez moi, j'ai rien.
Et est-ce que vous êtes le cerveau caché de Daft Punk ?
Oh, ils n'ont pas besoin de moi, Daft Punk. Et puis, ils n'ont pas besoin de mon matériel, ils en ont. Alors, chez moi, il n'y a rien. Chez moi, il m'arrive d'écouter de la musique, mais je ne fais pas de musique chez moi. J'ai une compagnie qui a des locaux suffisamment grands pour stocker tous les instruments qu'on a. Et non, sur ce spectacle-là, il n'y a absolument pas tout l'instrumentarium. À force de faire des spectacles, d'acquérir des nouvelles machines, on en a plein. Mais chez moi, je fais quasiment pas de musique. Je fais de la musique quand je répète les spectacles et après, pendant les spectacles en tournée. Je profite vraiment des créations des spectacles pour m'offrir des temps de recherche sonore. Mmh. Mais on est une compagnie qui tourne énormément, ce qui me réjouit. Hein. Et du coup, j'ai peu de temps. Hein, quand je suis chez moi, je dors.
Et alors, on va parler juste un peu de votre prochain spectacle. Vous revenez en décembre ici, au Théâtre de la Renaissance. Proposer donc, pareil, Viking, une récréation autour de John Cage, hein, c'est ça ?
John Cage, c'était à la fois un musicien, un vrai musicien, je veux dire au sens classique du terme, un instrumentiste. Et c'était aussi un philosophe de la musique pour moi. Et c'était quelqu'un qui avait une réflexion sur la musique que je trouve, moi, super intéressante. Et notamment la question de l'interprète, la personne qui va faire de la musique. Alors c'était quelqu'un de facétieux aussi, d'assez drôle et de provocateur. Et du coup, ça donne à beaucoup de musiciens une image rigolote du personnage. Et je trouve que beaucoup de musiciens interprètent la musique de John Cage en ne mettant en avant que la partie facétieuse et légère, et du coup sont peu scrupuleux des partitions. Ce que à la fois je peux comprendre d'un musicien classique, parce que vous ouvrez une partition de John Cage, vous êtes halluciné, quoi. Il y a plein de partitions où il n'y a même pas la moindre note. C'est des consignes, et des consignes qui peuvent paraître un peu étonnantes. Mais si on les respecte, vraiment, ces consignes, on rentre dans une musique, vraiment. Et donc, à la fois, Yiking, on a eu envie de choisir des pièces qu'on respecte scrupuleusement. Mais il se trouve que dans ces partitions, il y a un jeu sur le hasard. Pour vous donner un exemple de ce qu'aimait faire John Cage, il y a une pièce qui s'appelle Circus. Et le principe, c'est de convoquer sur scène un virtuose d'un instrument de musique. Il monte sur scène et on lui donne un instrument duquel il n'a jamais joué. Et il fait un concert avec cet instrument. Mmh. Voilà, ça vous donne une idée. Et là où John Cage n'a pas tort, c'est qu'un vrai musicien, quelqu'un qui maîtrise un instrument de musique, vous lui donnez n'importe quoi, s'il a le courage d'y aller, il y va et il va vous produire quelque chose. Moi, j'aime bien cette idée-là. Il met en avant beaucoup le travail de l'interprète, du hasard. Et c'est ce qui nous plaît. Donc, à la fois, on a choisi des pièces plutôt ludiques, qui utilisent plein d'objets. Éric Gourlot, le percussionniste, doit jouer avec un cactus, probablement. C'est pas sûr, c'est une histoire de hasard. Peut-être avec des noix, peut-être avec un bambou. On sait pas la durée des mouvements qu'il va jouer, parce que ça, c'est le public qui va tirer au sort. Cécile va jouer des pièces pour piano préparé. On va faire quelques improvisations. Moi, j'aurai un Tepaz, un vieux pick-up Tepaz, quelques instruments électroacoustiques. On va jouer avec des bulles d'air provoquées par des coquillages. Voilà, donc quelque chose qui joue beaucoup avec la matière sonore, mais en étant très scrupuleux de respecter les partitions.
Dernière question, on sent que vous êtes aussi mélomane, enfin vous aimez la musique, et notamment, est-ce qu'on peut dire que c'est notamment celle des années 70, parce que vous avez joué aussi sur scène Pink Floyd, Dark Side of the Moon, mais est-ce que vous vous intéressez aussi à la musique actuelle, la techno je pense, ou à des groupes expérimentaux comme Radiohead ou autres ?
Oui, je suis complètement ouvert à la musique actuelle. Alors moi, il se trouve que j'étais ado dans les années 70, j'ai commencé la musique en faisant de la pop, donc c'est vrai que je suis très marqué par ces sonorités-là. C'est l'arrivée des synthétiseurs, les années 70, donc j'ai été très marqué par ça. Donc c'est vrai que j'ai tendance à aller vers ça, mais j'écoute de tout. Notre prochain gros projet sera un mélange de musique électroacoustique et de musique ancienne, plutôt musique baroque. Voilà, donc ça vous donne une idée, moi ça reste très ouvert.
Merci beaucoup Thierry Ballas, et puis bon vent.
Merci.